Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23, toujours avec Rémi Barré, avec Perico Légas, avec Jérôme Lavrieux et avec Robert Sebag, avec vous bien sûr au 32-16 pour répondre à notre dernière question. Faut-il maintenir les corridas en France? On parlera de la tribune de Saint-Jean, c'était hier dans le journal du dimanche pour défendre les corridas. 14h30, RMC s'engage pour vous. Amélie Rosic qui va tenter d'aider des parents d'élèves scandalisés par un projet d'autoroute à quelques mètres de l'école de leurs enfants. Il y aura également les immanquables, toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et une info pour Robert Sebag. Tiens, des visites médicales obligatoires à 25, 45 et 65 ans. Et puis on parlera également du très faible niveau des élèves français en anglais. Enfin, ça, c'est pas vraiment une surprise.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser à la tribune du jour. C'est celle de 100 jeunes dans le journal du dimanche hier. Des jeunes de villes et de villages de tradition taurine qui veulent défendre la corrida face à la proposition de loi d'Émeric Caron qui, lui, veut l'interdire. Que disent exactement ces jeunes dans cette tribune, Rémi ?
Eh bien, ils disent tout simplement de ne pas toucher à leur passion. Tous dénoncent d'abord l'État centralisateur et s'opposent à la suppression des cultures locales, à la standardisation, à la globalisation des modes de vie et entendent défendre la préservation des exceptions culturelles. Et ils estiment, en outre, ça va parler à beaucoup, n'avoir pas de leçons à recevoir en matière de respect de leur écosystème et de leurs taureaux de la part d'hommes politiques urbains, élus d'arrondissements parisiens ou de régions qui ne connaissent rien à leur mode de vie, dehors les bobos, et d'avancer des chiffres.
Ça la tauromachie.
Pardon ?
Ça rappelle les chasseurs.
Voilà, exactement. Et d'avancer des chiffres, la tauromachie, c'est plus de 30 000 hectares de terres préservées par le mode d'élevage extensif nécessaire aux taureaux, c'est ce qu'ils disent. Ce sont des milliers d'emplois et près de 100 millions d'euros de retombées sur les territoires taurins du sud de la France. Ce sont encore 2,5 millions de passionnés qui viennent assister au spectacle chaque année en France.
Perico, les gars, c'est ce qu'il faut maintenir la corrida en France.
C'est curieux parce que c'est deux formes de totalitarisme. Je respecte toutes les traditions et la corrida est une tradition, j'allais dire un patrimoine culturel de l'humanité qui remonte à l'Antiquité. C'est barbare, hein. Il y a un problème de moralité. C'est la torture, c'est un carnage sur un animal qui n'a pas demandé à souffrir. Le rituel est très violent. Cela dit, il rentre dans un contexte historique et culturel de l'Europe, de la Méditerranée. Bon, alors, Émeric Caron, on est dans le sectarisme dogmatique total. Mais la réponse, là, des 100 jeunes qui commencent à dénigrer les hommes politiques, ça veut dire quoi d'habiter de... J'ai passé toute ma vie à combattre le parisianisme, moi qui vis à Paris et qui suis de culture parisienne, même si je suis parisien de Paris.
On peut être parisien et pour la corrida.
Je supporte plus, non, mais je supporte plus les leçons de morale, les bobos parisiens, cette espèce de racisme social, parce que on est en dessus. Ras-le-bol, c'est pas cet argument-là qu'il fallait utiliser. Donc ils se sont discrédités, rien qu'avec cet argument-là. Alors qu'on dise que dans certaines villes, alors l'Espagne est confrontée, vous avez des régions espagnoles, la Catalogne, où on commence à contester la tauromachie comme étant le symbole, j'allais dire, d'une Espagne arrogante, monarchique, peut-être rétrograde, du passé, presque de l'Inquisition. Il y a en France une tradition taurine avec des villes sanctuaires.
C'est pas en France, je suis désolé.
Des places taurines, on appelle.
Je parle de places taurines, Arles, Bayonne.
Vous n'avez pas cette tradition dans le Nord.
Alors, c'est une tradition régionale. Je connais bien la tauromachie, j'ai assisté à des corridas, je suis entouré d'amis qui sont passionnés par cela, avec qui j'ai des conversations quelquefois très houleuses. Est-ce qu'on peut trouver une façon, non pas très hypocrite, puisque la corrida, la portugaise, on ne tue pas l'animal, mais il meurt quand même, on l'abat derrière. Est-ce qu'on peut trouver une corrida où l'on laisse la beauté de ce rituel culturel, musical, l'événement, sans qu'il y ait une souffrance, un massacre, quand même les banderilles, le picador, c'est quand même tragique. Et aujourd'hui, où on a une évolution...
Si tu tues pas le taureau, tu fais quoi? Tu joues avec lui?
D'accord, on a une évolution. Oui, mais on gère une réalité historique. Et on est dans une évolution des consciences. On ne supporte pas la torture de l'animal qui est torturé de façon absolument abominable. Je comprends que ce soit. Alors, on n'est pas obligé d'aller la voir, mais savoir qu'on est là. Est-ce qu'il y a un moyen de repenser la corrida sans qu'elle devienne une boucherie barbare? Auquel cas, je serais tout à fait d'accord. Voilà. Alors que l'animal soit sacrifié. En plus, on peut pas le manger parce qu'en plus, il est, voyez, voilà. Donc là, il y a une contradiction. Est-ce qu'on peut préserver le patrimoine culturel? En gros, patrimoine culturel historique en s'épargnant le côté barbare boucherie. Voilà.
Juste Perico, les gars, on sait que aujourd'hui le bien-être animal, c'est vraiment une question de société. Je veux pas dire qu'on s'en fichait il y a 10 ans, mais enfin en tout cas, on en parlait beaucoup moins. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut maintenir les corridas dans la société actuelle?
Perico a raison de reprendre l'histoire. Rappelez-vous Thésée et le Minotaure. Toute l'histoire de l'Antiquité, les jeux du cirque aussi, c'est quelque chose de...
Voilà.
Et puis effectivement, ça a été maintenu, pas simplement en Espagne, dans le Sud, mais ça a été maintenu. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne supporte plus la mort de l'animal. Tout petit, mon père m'a amené voir une corrida à Toulouse où il y avait des arènes, les arènes du Soleil d'Or. Elles ont été détruites depuis. Elles ont été complètement détruites parce que on n'accepte pas effectivement la souffrance animale. Et puis il y avait tout le décorum, si vous voulez. Hein. Alors effectivement, aujourd'hui, on peut garder les courses taurines, Bayonne par exemple. Les courses, on ne tue pas les taureaux. Hein, la course à la vachette, on ne les tue pas, on court dans les rues.
C'est autre chose.
C'est pas la même souffrance animale que de planter des banderilles, avoir des picadors et puis tuer effectivement l'animal. Alors là-dessus, si vous voulez, d'un côté, alors il y a les contingences économiques. Rémi les a rappelés, ce que ça représente. En Espagne, c'est toute une région d'Espagne où il y a l'élevage des taureaux. Ça fait partie de leur culture. Alors, il y a eu, par exemple, une suppression en Catalogne. Mais c'était effectivement en réaction contre Madrid, le pouvoir central. C'est-à-dire, nous, on est autonomes et nous, on va arrêter les belles arènes de Barcelone. Aujourd'hui, sont fermées s'il y a des spectacles musicaux. Donc, moi, je suis, si vous voulez, on peut plus accepter aujourd'hui avec le bien-être animal, mais la suppression totale, si vous voulez, de certaines pratiques culturelles, sans donner la mort à l'animal, je pense qu'il faut garder un certain nombre de choses, sinon on va vivre dans un monde complètement aseptisé.
Ouais, donc vous êtes d'accord avec Perico. C'est un peu la fin de nos traditions, si on met fin au corrida.
Je sais pas, parce que moi je suis mal à l'aise sur ce genre de débat, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais fan des corridas. Je suis allé en voir, même en Espagne. J'ai collectionné des objets liés à la corrida. Mais plus ça va, plus quand je réfléchis, je me rends compte que ça peut pas durer éternellement. J'ai du mal à pouvoir m'indigner d'un footballeur ou d'un rappeur qui balance un coup de pied dans son chat ou dans son chien, comme on l'a vu il y a quelques semaines, et à dire il y a une sorte de tradition, etc. Le fait, en plus, je suis d'accord avec Perico, les arguments de cette tribune. En fait, quand on projette sur les autres ce que les autres nous reprochent, ça marche jamais. Il m'aurait demandé de les aider, je l'aurais rédigé autrement leur tribune, parce que ça marche pas. De plus, invoquer le fait que c'est une tradition qui remonte à l'Antiquité, oui, mais alors il va falloir réinstaurer pas mal de traditions de l'Antiquité qui sont un peu barbares quand même. Moi, je ne suis pas pour les interdire.
Gladiateur.
Je ne suis pas pour les interdire. Je pense que plus ça va aller, plus la société va se mettre à réfléchir sur le sujet, plus on va trouver une autre solution. Vous parliez d'un affrontement politique entre la Catalogne et Madrid. Il n'y a pas le même affrontement politique à Mexico, et ça a été interdit à Mexico. Le bien-être animal, quoi qu'on en dise, finira par gagner du terrain. Et vous disiez tout à l'heure, Estelle, c'est pas une tradition du Nord. Moi, je viens du Nord.
Il y a les combats de coq, hein.
Oui,
les
mais
combats
de coq,
il y en a plus. Il y avait des arènes avec des combats de coqs, c'était d'une violence inouïe. Oh, c'est des coqs, on s'en fout. On va les bouffer, on met un peu de vin autour, puis ça va être bon. Ben, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Pourtant, il reste d'autres traditions dans le Nord. Mais je pense que ça va arriver au fur et à mesure. On va avoir quelque chose qui va être de plus en plus, qui va prendre de plus en plus en compte tout ça. Je pense que le pire, c'est de faire un oukase pour l'interdire. Je pense que le meilleur atout des défenseurs de la corrida, c'est Aymeric Caron. Parce qu'il n'y avait pas pire pour porter le combat contre les corridas, parce qu'il va avoir une réaction éruptive, cutanée, cher docteur. Et donc, le débat va se clore très rapidement, parce qu'on va être dans tellement les extrêmes des deux côtés. Je pense qu'il faut aller vers une solution qui va prendre du temps, mais petit à petit, il y aura de moins en moins de places qui le feront. Et un jour, il y aura d'autres choses dans les arènes, tout aussi traditionnelles. Mais ça va. Vous savez, Barcelone, Mexico, certaines villes d'Espagne ne se sont pas arrêtées de vivre après.
Non, bien sûr.
Mais elles l'ont fait parce qu'elles l'ont décidé elles-mêmes. D'accord. Les gens du coin l'ont décidé eux-mêmes, sans que ce soit imposé par quelque chose de très dirigiste. Et pour l'instant, et je finis sur la tribune en disant « c'est des parisianistes !» Je suis désolé, hein, si ça existe encore, c'est parce que c'est à Paris qu'il a été décidé de prendre en compte les traditions taurines et séculaires.
On est avec Nicolas, qui nous appelle de Dax, dans les Landes, et qui est fan de Corrida. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, j'imagine que elle vous a plu, vous, cette tribune des 100 jeunes hier dans le journal du dimanche.
Elle est très bien, cette tribune. Ça prouve que la tauromachie continue, qu'il y a des jeunes qui vont aux arènes, et j'en vois. Mais j'ai entendu beaucoup des choses fausses de la part de Perico Legas. Je vais y mettre deux ou trois pouillassos, comme on dit. Allez. Avec quoi le langage taurin est aussi dans la culture, dans la langue française.
J'accepte.
C'est quoi un coup de saut?
Un coup de pique, une pique.
Ouais. Une petite banderille, Yvan.
Ouais. Oh non, les piques, non, c'est la pique. Les banderilles,
c'est la pique. C'est la pique. Picador à cheval.
Ouais, là, on est au-dessus de la banderille, là. OK. Allez-y, Nicolas.
Donc, déjà, la viande de taureau, elle se mange. Et c'est très bon. Je l'invite à découvrir ça. Ça se mange en daube.
Oui, mais pas le taureau qui vient de mourir en corrida.
Si. Ah, si, bien sûr. En côte, vous pouvez en trouver à Dax si vous voulez.
Mais je
vous
sais, mais elle n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne.
Elle
vaut pas celle que du taureau qui a grandi paisiblement dans le. Voilà. Il y a la toxine. Il y a un peu de toxine.
Le taureau qui a grandi paisiblement dans les prés, c'est le même qui est dans le sud-est ou qui va dans une arène pour une corrida. Stress.
Oui, mais l'épreuve de la corrida, c'est comme un cerf. Un cerf chassé à court est inconsommable.
Non, mais c'est un stress quand même, Nicolas.
La gastronomie, je la connais, j'en mange, et c'est très bon, l'adobe de taureau.
Bon, alors, admettons, ensuite, bon, enfin, ça, c'est pas le débat. Bon.
La Catalogne, ça a été retoqué par la plus haute administration de Madrid. Donc, on peut tout à fait organiser des corridas à Barcelone. Il va falloir que les
le tribunal constitutionnel.
Aussi... Non, mais il y en a plus, voilà. Aussi.
Mais s'il y en a plus, oui.
Et ils le font pas pour autant.
Mais rien n'empêche l'organisation de
Mais il y en a plus, Nicolas.
Nicolas, ce que je vous disais, c'est que ce sont les gens de Barcelone qui ont décidé de
ne plus avoir de spectateurs. Ça va mourir de sa belle mort sans faire de jeu de mots.
Voilà. Donc voilà. Donc oui, le problème, c'est vous, les médias. Vous racontez beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'autres, comme Mexico. Ce n'est pas encore décidé pour Mexico. Et puis, les principaux opposants à la tauromachie, ce sont quand même... des intégristes. Moi, je croise beaucoup de jeunes. Ce sont des intégristes animalistes, comme a dit Pirico.
Non, vous pouvez pas dire ça, Nicolas. On peut très bien ne pas être intégriste animaliste contre la corrida. Je suis désolé. Aujourd'hui, si vous demandez aux Français, il y a beaucoup de gens qui sont contre la corrida parce qu'ils sont contre l'idée qu'il y ait une bête qui meurt de cette façon, sans pour autant être intégriste. Et c'est aussi des gens qui mangent de la viande. Enfin,
selon un dernier sondage IFOP qui date de 2021, 81% des Français forcément des intégristes, sont pour l'interdiction de la corrida.
Voilà,
dans les 81%, combien connaissent ce qui se passe dans une corrida, connaissent le taureau bravo.
Oui, il y en a mais ça, vous avez raison.
99% qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont aucune. Et je le croise, vous savez, moi je rencontre des gens par mes activités associatives, des gens qui sont curieux sur le sujet, ils veulent connaître, comprendre. Ils n'ont pas de jugement. Ils n'iront pas forcément voir une corrida, dans 99% des cas, mais comment ça se pratique. Et ils auront du respect pour cette culture, parce que c'est une culture. Et autre, Perico, les barbares, c'était les étrangers qui vivaient en dehors de l'Empire romain. Oui. Et la culture taurine se déroulait dans l'Empire romain.
Mais là, Nicolas, on va pas dans le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent aimer la corrida, mais qui peuvent aussi se poser des questions sur ce qu'on fait subir à un animal. Parce que tout simplement, et c'est ce qu'a dit Jérôme Lavrieux, il est dingue de corrida. Mais voilà, il se pose des questions. Et aujourd'hui, effectivement, on se pose des questions sur le bien-être animal, des questions qu'on ne se posait pas il y a 10 ans. Et vous rendez bien compte aujourd'hui, Nicolas, que, et malheureusement pour vous, parce que je vois bien que vous avez une passion pour la corrida, c'est que, dans 20 ans, certainement, il n'y en aura plus. Vous le sentez, ça, Nicolas, quand même?
On ne sait pas. Vous savez, il y a 100 ans, il y avait des anti-corridas qui prédisaient la fin de la corrida aussi. Ça a toujours existé, les anti-corridas, depuis le début de la culture taurine. Il y a des papes qui ont essayé de l'interdire, il y a des rois qui ont essayé de l'interdire. Elle existe toujours.
Après, mais là, il y a un projet de loi. Et il y a 80% des Français qui sont contre.
Nicolas, par exemple, vous êtes d'accord, si vous voulez,
Robert Sebag,
sur le maintien des courses taurines sans qu'il y ait mort de l'animal, sans qu'on tue l'animal ou pas? Ou vous pensez qu'il faut garder la mort du taureau, enfin, tuer le taureau?
Je préfère voir mourir avec respect un taureau dans une arène que les animaux qui sont abattus dans les abattoirs de façon où il n'y a aucun respect.
Rituel.
Non. Bah merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Nicolas et merci de nous avoir donné votre point de vue dans Estelle Midi. On est avec André Viard, il est président de l'Observatoire national des cultures taurines. Bonjour André Viard.
Bonjour.
Alors c'est vrai que la corrida est attaquée de toutes parts en ce moment. Elle est défendue là par 100 jeunes dans la tribune du journal du dimanche. Mais c'est ce que je disais à Nicolas, notre auditeur. Vous vous rendez bien compte que c'est plus trop dans l'air du temps quand même, la corrida.
Bah, chez vous, surtout, chez nous, oui, c'est dans l'air du temps et on y est plus attaché que jamais. Et je vais vous dire même quelque chose qui peut paraître paradoxal. Plus on nous attaque, plus nous sommes unis et plus nous la défendons et plus les arènes se remplissent. Vous voyez, ça peut paraître paradoxal.
Non, je comprends.
Mais il y a un phénomène de défense de ce qui n'est pas simplement un spectacle, qui est une culture. Et c'est à ce niveau-là que la corrida ne sera pas interdite par une loi, même si M. Caron la porte, et même si, comme vous le dites, 81% des Français seraient favorables à l'interdiction de la corrida, ce que je ne crois pas pour ma part. Je pense qu'ils s'en foutent et qu'on leur fait lire ce qu'on veut dans des sondages. Mais l'important, c'est que la France a pris des engagements en matière de respect, de protection de la diversité, de la liberté des expressions culturelles, dont fait partie la tauromachie, et qu'une simple loi ne peut pas passer au-dessus du bloc de conventionnalité. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que même si M. Caron, alors je rejoins, je ne sais pas lequel des intervenants qui a dit qu'il y avait un phénomène de détestation, je peux vous dire, pour être en contact avec tous les groupes politiques, que j'ai été très surpris de le constater. C'est impressionnant.
D'accord, mais si la loi est pas, vous faites quoi, André Viard?
Mais moi rien, c'est le Conseil constitutionnel qui la cassera parce qu'elle n'est pas conforme au bloc de conventionnalité. C'est aussi simple que ça. Toutes les lois doivent rentrer dans un cadre qui s'appelle la hiérarchie des normes. Et au-dessus de la loi, il y a le bloc de conventionnalité, le bloc de constitutionnalité. Si une loi n'est pas conforme à ça, elle n'est pas promulguée.
Mais est-ce que vous avez des idées, vous, André Viard, pour faire évoluer la corrida? Parce que vous voyez bien que ça pose problème. Alors, vous ne voulez pas voir ce sondage, mais il n'y a pas que ce sondage. Il suffit d'aller voir dans la rue.
Si vous dites que 80% des Français sont contre la corrida, ça veut dire que 20% sont pour.
Oui.
C'est pas rien, 20%.
19, mais est-ce que j'ai dit ça,
hein? 19.
Bon, alors, 19, si vous voulez, mais il y a d'autres sondages qui disent plus. Bon,
oui.
Mais on ne peut pas. Est-ce que la France est une démocratie et est-ce que elle entend préserver le droit des minorités comme c'est le rôle de la démocratie?
Sur les pro-corrida, ça m'étonnerait.
Madame,
mais est-ce que vous avez des idées pour, par exemple, éviter peut-être de tuer le taureau à la
madame,
fin? Voilà.
Madame, je n'ai pas à avoir d'idées. Le seul critère, un, c'est une pratique culturelle, donc c'est intouchable. Et deux, je ne sais pas qui a dit, et il a raison, ça arrêtera quand il n'y aura plus personne dans les arènes. Et c'est ça le seul critère. Si un jour, les gens qui aiment la corrida se détournent de la corrida ou veulent la faire évoluer, elle évoluera ou elle disparaîtra. Comme beaucoup de cultures ou de traditions ont pu disparaître auparavant. Ce que vous avez cité, Barcelone, c'est faux. Pourquoi n'y a-t-il pas de corrida à Barcelone? Parce que l'indépendantisme radical, fait une pression terrible sur les propriétaires des arènes pour qu'ils n'ouvrent pas. Ils n'ont pas envie qu'on les leur fasse brûler. À Mexico, il n'y a aucune interdiction. Il n'y a d'interdiction nulle part.
Au Mexique, de mémoire, il y a 7 États sur 11 qui interdisent les corridas, vous le savez.
Ce sont des États où il n'y en a pas.
Ah bah oui.
Des États où il n'y en a pas. Il n'y en avait pas.
Monsieur Viard.
Aucune arène n'est fermée par...
Alors, juste, vous savez quoi, André Viard, je voudrais juste vous faire dialoguer avec Michael. Michael, c'est un auditeur parisien, ça va vous plaire, qui lui est anti-corrida. Et j'aimerais bien qu'il vous dise ce que lui, il ressent. Bonjour Michael.
Oui, bonjour.
Donc là, il y a André Viard qui est président de l'Observatoire national des cultures taurines, qui vous écoute.
Bah, écoutez, moi c'est simple, le constat est quand même édifiant dans cette tradition. Déjà, ils vont en sortir gagnants parce qu'on ne peut pas faire disparaître cette abominable tradition puisque c'est culturel
merci,
et économique.
Merci de le reconnaître.
C'est très voilà. Ça, c'est clair que comme c'est culturel et économique, ça ne pourra jamais disparaître.
Okay.
Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Maintenant, le fait de discuter avec des gens, j'ai eu très peu l'occasion de discuter avec des gens, de toute façon la plupart des gens sont contre, hein, je pense en France et dans le monde entier, parce que c'est aussi dans le monde entier. Moi, ce que je trouve sordide, c'est que déjà, les toréadors qui risquent leur vie, dont la plupart ont des enfants, des familles, combien de toréadors ont été gravement blessés et morts? Ça, c'est la première chose. Et autre, ça fait combien de génocides envers les pauvres taureaux?
Oui, non, mais là, vous pouvez pas parler de génocide, Michael. Non, mais les mots, ils ont un sens.
C'est pas un génocide, combien de carnage, si vous préférez? Combien de carnage?
Je vais vous dire le chiffre exact de 2019, parce que 2022, on ne le connaît pas encore. 886 taureaux en France. 886 taureaux en France. Et selon les chiffres donnés par toutes les fondations animalistes, ce sont 3 millions d'animaux qui sont abattus chaque jour dans les abattoirs. Voilà le rapport. Donc, si on me parle de bien-être animal et de faire avancer la cause, excusez-moi, c'est pas la corrida. Il y a d'autres combats à mener, mais je suis prêt à souscrire à autre chose. Non, ce n'est pas la même chose.
Il les mène aussi, monsieur Viard, et là.
Non.
J'allais vous dire hélas, parce que c'est la consommation de la viande qui est en cause.
Oui, mais non, ce n'est pas du tout le problème de la consommation de viande, c'est le problème de la forme d'abattage.
Et dans c'est ce que je vous dis.
Dans la corrida, le taureau est respecté pour ce qu'il est. Vous savez, on maltraite.
Ça, c'est une lecture.
Vous feriez ça à un chat ou à un chien, ce serait insupportable, évidemment. Ce serait insupportable. Personne n'aurait l'idée de faire une corrida de chat ou de chien. Ne soyons pas ridicules.
Mais enfin, il y a un stress énorme. Moi, j'ai déjà assisté à des corridas, André Viard. Mais franchement, il y a. Ne me dites pas que le taureau, il est heureux d'être là et qu'il meurt en paix.
Le taureau est un animal dont la nature profonde est le combat. Pas forcément contre l'homme, ils se battent entre eux. Quand vous avez un lot de 10 taureaux, par exemple, préparés pour une corrida, il est, je ne vous dirai pas à chaque fois, mais très fréquent, que 2, 3 ou 4 de ces taureaux aient disparu au moment de les embarquer, parce qu'ils se sont entretués.
Voilà.
C'est leur nature. Cet animal-là, la pire injure et la pire souffrance qu'on pourrait lui infliger,
c'est de le laisser tranquille dans un pré.
Non, mais oui, si vous lui payez la pension à vie, pourquoi pas, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein, qui va assumer l'élevage de taureaux en liberté? Vous savez qu'un taureau vit sur 3 hectares à peu près, hein, 3 hectares par animal dans les élevages. Donc qui peut assurer la survie de cette espèce? La corrida, personne d'autre. C'est-à-dire grâce à la corrida, cette espèce particulière qui est la dernière branche de l'aurochs sauvage à avoir conservé l'agressivité naturelle, c'est-à-dire à n'avoir pas été domestiqué. Le taureau sauvage.
En fait, vous nous dites qu'il faut maintenir la corrida pour maintenir une espèce menacée,
non,
quoi. C'est ça que vous nous dites.
Non, la corrida, je ne dis pas qu'on le fait pour ça, mais la corrida maintient l'espèce, effectivement. Sinon, elle disparaîtrait. Comme sont en train de disparaître à peu près toutes les races chevalines.
Pourquoi? Alors, je voudrais comprendre.
On en mange moins, mais on n'en a plus besoin pour tirer les charrues.
Oui. Alors, je voudrais juste qu'on prenne Estelle qui nous a appelé au 3216, quel beau prénom. De Saint-Andéol-le-Château. Bonjour, Estelle.
Bonjour.
Et vous seriez pour l'interdiction, même si elle ne peut pas avoir lieu, mais je veux dire, voilà, dans l'idée, vous êtes contre les corridas, en tout cas.
Je suis contre, d'une part, parce que faut quand même savoir que vous me direz, mais on plante quand même pas le pic dans un endroit très agréable. Je veux dire, ce serait un endroit qui serait avec plus de chair, etc. Bon, voilà, mais là, faut quand même savoir qu'on leur plante dans le dos. Et même si c'est une espèce qui, de base, je veux bien l'entendre, est assez sauvage, il y a plusieurs espèces sauvages qui sont en voie de disparition et à qui on n'a jamais fait de mal, ou à part le braconnage. Et pour le coup, je ne comprends pas pourquoi on s'acharne. Enfin, je veux dire, en Camargue, il y a bien des vachettes sauvages et on fait du travail dessus. C'est ce qu'on appelle le travail de bétail. Mais, enfin, je veux dire, on ne va pas jusqu'à les tuer.
Il a une finalité, ce travail, c'est la reine.
Oui, après, conçois que c'est la reine. Mais pourquoi en arriver à lui planter, du coup, des pics dans le dos si on peut directement ne pas la faire traiter?
Je vais vous dire... Ça ne va convaincre personne, surtout pas ceux qui ne veulent pas être convaincus. Mais le sang
que perd le taureau avec l'ensemble des blessures qu'il reçoit, proportionnellement est inférieur à une prise de sang quand vous allez donner votre sang à la croix.
En termes de volume, vous avez raison.
Mon infirmier, on sera un peu plus.
Une prise de sang, ça fait pas mal.
Oui, mais qui vous a dit que le taureau a mal?
La souffrance.
Parce que quand vous voyez des corridas avec les banderies, oui, il va avoir mal. Quand on met les banderies, c'est pour l'affaiblir. Ne me dites pas qu'il est heureux.
Le problème, c'est que le dos, c'est constitué d'une vertèbre. Il y a quand même quelque chose dans le dos qui fait que...
On ne vous entend plus là.
Vous êtes dans les éléments de langage véhiculés par les associations anti-taurines.
André Viard, elle a le droit d'avoir son avis.
Oui, mais elle a le droit de se tromper.
Mais excusez-moi,
j'ai été matador de taureaux, je connais le taureau de près et je l'ai regardé dans les yeux et je sais ce qu'il fait. Si vous prenez n'importe quel autre animal et qu'effectivement vous le mettez dans une arène, il n'y aura pas de corrida parce qu'il s'enfuira.
Alors, merci beaucoup, en tout cas, André Viard, d'avoir été avec nous. C'est passionnant, mais malheureusement, on doit clore ce débat. Merci également à Estelle et à Mickaël d'avoir été dans ce débat. Alors là, très intéressant, parce qu'on a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Vous nous disiez, Rémi, il y a 81% des Français qui sont contre la corrida.
Sondage IFOP.
Qu'en disent nos internautes?
C'est extrêmement partagé. Tu parlais de marge d'erreur tout à l'heure. On est à 52% de non.
Ah oui, donc on n'est pas du tout à 81%.
Non à l'interdiction.
Voilà, faut-il maintenir cette tradition? Et c'est non à 52%, mais c'est effectivement très, très, très partagé. Merci à André Viard, en tout cas, d'avoir été avec nous dans un instant. Les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On parlera du couac, du match, en fait, expérimental avant la Coupe du Monde au Qatar. Une catastrophe, on en parlera. Et puis, bien sûr, on aura Amélie Rosé, qui RMC s'engage pour vous. Elle va tenter d'aider les parents d'élèves scandalisés par un projet d'autoroute à quelques mètres de l'école de leurs enfants. Et pourquoi il y a ce projet d'autoroute? Eh bien, pour les JO 2024. On va tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, il est 14h33 et c'est l'heure d'RMC s'engage pour vous, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et c'est tous les jours à 14h30 avec Amélie Rosé. Qui est Amélie, vous avez été contactée par des parents d'élèves qui ne sont pas contents du tout.
Imaginez une école, des rires d'enfants qui jouent dans la cour de récré. Jusqu'ici, tout va bien, mais vous ne les entendez pas. Non, parce qu'à 10 mètres de là, des milliers de voitures entrent et sortent de l'autoroute. On est fin 2023, bienvenue à l'école Pleyel de Saint-Denis. La 86, cette autoroute, vous savez, qui fait le tour de Paris, passe déjà à 100 mètres du bâtiment. Mais pour desservir le village olympique des JO 2024, l'État est en train de construire un échangeur à 95 millions d'euros, quand même. Ami Doudir est administrateur de la Fédération des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis, il est outré.
C'est toujours les enfants qui payent. C'est pas normal. Pour faire transiter des athlètes, pour gagner peut-être 30 secondes, une minute sur un trajet, on va accepter de polluer des enfants et des milliers d'habitants. Il y a 16 000 habitants à Pleyel. Donc c'est inimaginable, c'est abject.
Saint-Denis, c'est la 9e ville la plus pauvre de métropole et aussi l'une des plus polluées. Alors les riverains comme Marc sont excédés, écoutez.
Tout le monde s'en fout. Après, ils nous font des beaux discours sur l'écologie, mais ils prévoient tout pour que ce soit pourri et que ce soit pas rattrapable.
Amélie, comment un tel projet a pu être adopté? Ça paraît fou.
Avant de lancer les travaux, en début d'année, la direction des routes d'Île-de-France, qui est le donneur d'ordre dans ce dossier, la DIRIF, a bien réalisé une étude d'impact, c'est obligatoire. Étude qu'elle a soumise à l'autorité environnementale, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un organisme indépendant, qui a rendu un avis dans lequel on peut lire ce qui suit. Il subsiste des zones où la concentration de polluants est augmentée par le projet. On parle ici quand même de particules fines, de dioxyde d'azote, et vous l'aurez compris, de 600 enfants de maternelle et le primaire tout de même. Pas de problème, répond la DIRIF. On va mettre une haie végétale, un mur anti-bruit et des revêtements pour absorber les polluants. L'autorité environnementale émet de sérieux doutes sur l'efficacité de ces mesures, mais l'État valide quand même le projet, le jugeant d'intérêt général.
Donc si je comprends bien, bizarrement, c'est l'intérêt économique qui l'a emporté.
Absolument, c'est fou, ça. Et c'est même écrit Noir sur blanc, la FCPE et une association de riverains ont carrément fait un recours devant la Cour administrative d'appel de Paris. Le recours a été rejeté au motif que les avantages socio-économiques sont supérieurs aux inconvénients. Je vous ai pas fait la phrase exacte parce que c'est du juridique, donc c'était 4 km, mais vraiment, croyez-moi, le résumé, c'est ça. Et quand on interroge le directeur de la DIRIF, donc la direction des routes d'Île-de-France, Alain Monteil, sur les niveaux de pollution, voici ce qu'il répond.
Il est faux de dire que on va augmenter la pollution. La pollution va baisser au niveau de l'école. Ça, on en est quasi sûr. Elle ne baissera pas autant que s'il n'y avait pas eu le projet. C'est ça les données.
Mais elle baissera quand même.
Donc entre plus de pollution ou moins de réduction de pollution, on est quasi sûr, mais quand même pas tout à fait. Faut comprendre la nuance. Je vous laisse juger. Oui. On a interrogé nous aussi, évidemment, la ville de Saint-Denis, qui est quand même partie prenante là-dedans. L'adjoint à la transformation écologique, Laurent Monnet, c'est lui qui nous a répondu. Il s'engage à prendre des mesures, mais après coup, si une hausse des polluants était démontrée. Écoutez.
Tout ça, effectivement, sera suivi et évalué. Si des mesures dégradées qui dépassent sévèrement des seuils réglementaires, bien entendu qu'on reviendrait sur la situation et on envisagerait de mettre en place un certain nombre de mesures, de restrictions de trafic pour maintenir une qualité de l'air suffisante dans l'école et autour de l'école.
Les parents, eux, ont porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est en cours, alors vous le savez peut-être, mais la Cour européenne des droits de l'homme, même si elle rend un avis, ne sera pas contraignant. Mmh. Voilà, la France fera ce qu'elle veut. En tout cas, les parents d'élèves et les riverains continuent d'espérer. Ils savent honnêtement que pour les JO 2024, c'est trop tard. Hein, les travaux ont déjà commencé, ça va être livré fin de l'année prochaine. Mais en tout cas, ils espèrent
bien ces JO, c'est bien.
Voilà, ils espèrent que l'État sera contraint, en fait, de changer, par exemple, la circulation à l'issue des JO pour permettre aux enfants d'être le moins pollués possible. Et puis, ils sont soutenus dans leur combat par notamment Greenpeace, l'association Respire, France Nature Environnement, qui sont signataires aussi d'une pétition en ligne qui a déjà récolté 5000 soutiens et que vous pouvez retrouver en ligne sans difficulté. On le mettra aussi sur notre site internet.
Bah, merci beaucoup, Amélie Rosic, tous les jours à 14h30 dans Estelle Midi. Merci, Amélie. Avant les JO 2024, il y a la Coupe du Monde 2022 et je ne vous cache pas que ça ne s'annonce pas très bien. Alors, déjà, bon, pour plein de problèmes extra-sportifs. Alors, même le sportif, ça ne va pas. Non. Il y a eu un match expérimental là et ça s'est très très mal passé. On vous explique tout ça dans un instant et puis on parlera santé avec des visites médicales obligatoires. On demandera à Robert Sebag si c'est bien ou pas. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi et dans cette dernière partie, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Ça s'appelle Les Immanquables et c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
Les Immanquables.
Et on va commencer ces immanquables avec le couac du jour, Rémi.
À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, tout ne semble pas tout à fait au point au Qatar. Le 9 septembre dernier, on vient de l'apprendre, un match amical entre Al Hilal, qui est en première division en Arabie Saoudite, et Zamalek, club de première division égyptien, a été organisé au stade Lucel au Qatar, une enceinte prévue pour accueillir entre autres la finale du tournoi de la Coupe du Monde. C'est un test grandeur nature. Problème, climatisation mal réglée dans un climat humide accentuant la chaleur alors que le mercure affichait déjà 34 degrés. Ajoutez-y le manque d'eau potable pour les fans dont beaucoup n'ont pas pu se rafraîchir à la pause. Enfin, un métro saturé avec à la fin de la rencontre ce qui a donné, ce qu'on a eu, on a pu voir, on a pu assister à une file d'attente, attention, tenez-vous bien, de 2,5 km quand même.
Ah oui. Ouais. Sans eau potable, dites donc, ça fait.
Et c'était pas pour voir la reine d'Angleterre.
Non, le match a dû être très long. Quoi.
Ça se présente pas très bien quand même, Robert Sebag. Alors, je vous parle pas des 6500 ouvriers qui sont morts pendant les travaux pour cette Coupe du Monde, des droits LGBT bafoués, de l'alcool interdit dans les stades, de l'adultère qui est puni. Enfin, là, on sent que quand même, c'est un petit fiasco qui s'annonce.
Ben, ça a servi de rodage, hein, cette partie. Je vous dis, il y a une longue interview du prince du Qatar dans Le Point. Cette semaine, qui essaye de répondre à toutes les questions, il répond qu'à moitié, en particulier sur les victimes pendant les travaux de ces différents stades. Alors on va voir quelle va être là. C'est dans deux mois maintenant, hein, c'est au mois de novembre, l'inauguration. Donc j'espère qu'ils vont tenir compte un petit peu de ces remarques. Et puis de toute manière, les polémiques sont pas terminées. Les polémiques ne sont pas terminées. Climatisation des stades. Quelle température va-t-il faire au mois de novembre? Je ne sais pas si déjà 35 au mois de septembre. Ça va descendre peut-être à 28.
Oui, oh, bon, à 28, ça
avec
va.
Avec l'humidité, oui.
Il faut espérer qu'à 28, ils ne climatisent pas les stades.
Non, normalement, au mois de décembre, il fait 23, 24, ce qui est jouable, j'imagine.
Tout à fait.
Il faut de l'eau, quand même.
Moi, j'y suis déjà allé au Qatar en déplacement officiel, dans une autre vie.
Jérôme Lavrieux.
En fait, j'ai du mal, parce que, bien sûr que je ne comprends pas pourquoi ce ne soit pas un pays démocratique comme le nôtre, etc. Mais on confie souvent ces grandes compétitions internationales à des pays qui n'ont pas les mêmes standards que nous. Sinon, ça se ferait qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Hein. Mmh. Quand on l'a fait en Chine, les Jeux Olympiques, même fait
ça
les
nous
Jeux
a moins gêné, oui.
Là, on critique les stades en plein désert. On a fait les Jeux Olympiques d'hiver les plus récents à Pékin.
Sans neige.
Mmh.
Sans neige.
Sans neige.
Canon à neige.
Et comme c'est la Chine, on ne dit pas grand-chose. Mmh. Et avant, on les a fait à Sochi. On a créé ex nihilo une station de ski.
Ski, oui.
Qui maintenant sert pour faire des grands prix de Formule 1. Vous voyez pas le.
Il a fait la Coupe du Monde aussi en 2018.
Vous,
hein,
oui, voilà. Vous voyez pas le problème.
Si, je l'ai.
Et le droit du travail en Chine, demandez aux Ouïghours, qui assemblent nos téléphones portables dans certaines usines, et demandez en Russie les droits du travail. Voilà. Donc, bah, si on part du principe qu'il n'y a pas les standards démocratiques pour organiser, il ne fallait pas leur donner. Mais une fois qu'on leur a donné, il faut donner sa chance au produit maintenant. Voilà.
Donc on peut plus rien dire, quoi.
Si, on peut, mais il faut pas être hypocrite en fonction du poids politique du pays.
De toute façon, quand ça commencera, tout le monde regardera les matchs quand même.
Et bien entendu.
Donc, et tous ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont boycotter, croyez-moi, ils ne boycotteront pas. Vous voulez rajouter quelque chose, Périgo, pas du
tout? Oui, on peut peut-être les aider.
À qui?
Les Qataris ont envoyé des gens compétents pour
organiser les matchs de foot.
Oui, ceux qui ont organisé
la finale. En ce moment, le foot français a des leçons à donner.
On a beaucoup.
Hein, quand on a organisé, nous, la Ligue des Champions, c'était très bien réussi. On va les envoyer.
Il sera géré avec Fabien Manet.
Les responsables du Stade de France peuvent aller là-bas pour les 2 km de queue. On sait quoi en faire.
Des stadistes.
On peut aider. La visite du jour.
C'est une mesure phare de la loi de financement de la Sécurité sociale qui sera présentée fin septembre. La mise en place de visites médicales gratuite pour tous les Français à l'âge de 25 ans, 45 ans, puis 65 ans. L'objectif de la mesure est de mieux suivre les Français avec des thématiques définies en fonction de l'âge, entre conseils sur l'exercice physique, l'alimentation ou encore le dépistage de certaines maladies.
Bah c'est formidable parce que comme il n'y a pas assez de généralistes et qu'ils sont débordés, ça va être formidable. Mais enfin, l'idée est belle.
Voilà une bonne idée. Mmh. Je vous rappelle que régulièrement, les femmes françaises reçoivent, à partir de 40-45 ans, d'aller se faire régulièrement des mammographies. Mmh. Vous y allez très bien, vous n'y allez pas, aucun contrôle. Pareil pour le cancer colorectal et les coloscopies. Alors oui, on n'a pas la culture de la médecine préventive dans notre pays. Malheureusement, on ne l'a pas. Alors moi, bien sûr qu'il faut faire des examens régulièrement. Ça permet de découvrir d'une manière précoce et avoir une meilleure réussite au niveau thérapeutique. Mais on vous convoque, on vérifie. Et vous devez venir. Ça a été le problème de la vaccination des personnes âgées, où on recommandait à partir d'un certain âge. En Espagne, on convoquait les gens. Ils avaient une lettre individuelle. Et s'ils ne venaient pas, on allait les chercher. Et il faut exactement la même chose. Ça suffit parce que il existe déjà depuis longtemps. On vous recommande de faire tous les 10 ans. La Sécurité sociale vous envoie avec un certain nombre d'examens. Vous n'êtes pas obligé d'aller le faire. Là, il faut obliger. Oui, pour ces examens, mais avec obligation. Et on convoque les gens. Et on gagnera.
Il n'y en a plus assez.
Non, mais il y a des centres de Sécurité sociale avec des médecins de Sécurité sociale. Avec des laboratoires, il faut voir qu'est-ce qu'on va demander comme examen. Qu'est-ce qu'on va demander? Mais on fera des économies. On fera des économies. La médecine préventive, ce sont des économies à moyen long terme. Mais encore, il faut respecter cette médecine préventive et obliger les gens à faire ces examens.
Jean-Marc Lavrieux.
Et s'ils les font pas, ils ont quoi?
Prison.
Une amende, une prison, un exil.
Ben on les soigne plus.
Non, mais vous savez, je vais dire un truc, je suis libéral,
comme les professions libérales, et je pense que le mieux, c'est d'inciter les gens. On a eu ce débat-là avant la vaccination. Ah ben. Résultat des courses, on a été un des pays qui a eu un des plus forts taux de vaccination. Quasiment la même chose.
On les incite avec un pass. Les gens allaient se faire vacciner parce qu'ils ne pouvaient pas aller au café.
Bah, un pass colorectal.
Ils ont pensé que c'était plus important pour eux d'aller au café.
On ne peut pas jouer sur la santé publique.
Par cet endroit.
Je pense qu'il faut obliger.
Oui.
C'est une responsabilité. Le coût de la santé est gratuit en France. Il est gratuit. Et donc, si on ne fait pas un certain nombre d'examens, ça coûte extrêmement cher en termes de santé publique.
Incitons-les à le faire.
Il
c'est vrai.
Mais on incite depuis des années.
Qu'est-ce que vous en savez pour l'instant? Elles n'existent pas, ces visites
obligatoires. Mais
Jérôme, vous recevez toutes les femmes, reçoivent régulièrement. Allez vous faire faire des mammographies.
Ma mère, elle y est allée.
Elle y est allée, mais moins de la moitié y vont.
Un petit cancer.
Moins de la moitié y vont.
D'accord.
Ayant toute la moitié, souvent, ça arrive trop bien.
Mais ta mère, elle est allée elle-même.
Moi, je. Mais je. Il y a des gens qui disent qu'il faut. En fait, quand il n'y a rien, tout le monde s'en fout. Mmh. Et quand on propose quelque chose, tout le monde dit c'est pas assez. Il n'y avait rien. Non, et pour l'instant, on propose de faire avec une prise en charge trois fois dans sa vie.
Enfin, rien
on devrait faire la même chose.
Rien ne vaut la prévention pour éviter les pandémies.
Voilà.
Mais... quand nous avions le service militaire, le service national, cette génération passait au moins en contrôle.
Et, non,
au contrôle,
et les vaccinations.
Non, et on contrôlait d'autres choses.
La moitié d'une génération, tu mets de côté les femmes.
Oui, exact.
Je suis désolé, ça compte un petit peu.
Voilà. Donc,
la moitié de la population n'a pas fait de service militaire et on faisait pas
d'accord. Donc, le fait d'imposer à une population de se faire de temps en temps, à espace régulier, un contrôle militaire médical obligatoire pour faire le point, va constituer déjà, ne serait-ce que financièrement, des milliards d'euros d'économies parce qu'il y a des
prix.
Voilà, c'est si simple que ça. Alors, le libéralisme va en prendre un petit peu un coin.
Trouvons un point d'accord et disons que si on ne le fait pas, on perd le remboursement. Ou on
non, ce n'est pas ça, mais on va peut-être aussi sauver des vies, on va peut-être éviter des détresses. C'est quand même pas méchant comme contrainte. C'est ce qu'on appelle vraiment la contrainte sociale qui est faite pour le bien commun. Et je pense que là, les gouvernements sont dans le rôle d'imposer ça.
Je suis très favorable à ces trois visites.
Alors c'est l'âge qui me choque. Mais le ministre disait ce matin que c'était pas forcément 5, 45, 65, ça pouvait être aussi 2 ans près. Ce qu'il faut, c'est que 3 fois dans une vie, on ait un contrôle médical. Alors,
excusez-moi, si vous n'avez pas 3 contrôles médicaux dans votre vie, c'est que vous êtes vraiment en parfaite santé, quoi, parce que...
Moi, c'est tous les 6 mois.
Oui, bah vous voyez.
Voilà.
Enfin, je veux dire, bon.
Depuis que je suis ici à cette antenne, surtout, c'est tous les 3 mois. Maintenant.
D'accord. Le vol du jour.
Le vol du jour, tout juste sorti de la polémique sur le char à voile. Le PSG a publié une vidéo, maintenant supprimée, de ses joueurs prenant l'avion pour le match OL-PSG hier soir. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a lui-même réagi à cette vidéo, publiant sur Twitter une locution en latin, errare humanum est perseverare. L'erreur est humaine, persévérer dans son erreur. Et diabolique.
Ouais, enfin Clément Beaune, il est quand même un peu démago et il s'empare du sujet comme ça en se disant tiens, c'est bon, là je me fais mousser à peu de frais quand même, Perico Légas.
Que vous dire?
Je ne sais pas. C'est vous pas ça démago, vous?
Si, mais enfin, c'est leur métier, ils sont payés pour.
Les hommes politiques?
Ah oui, pour faire la démagogie. Ah bon, et qu'est-ce qu'ils la font bien? Et qu'est-ce qu'ils sont subtils dans leur argumentation démagogique? Quelquefois, ils sont même brillants et intelligents. Donc, c'est vrai que, bon. Le débat au départ, il est sur comment déplacer des footballeurs. Eh bien, je ne sais pas, on les met dans un char avec...
Non, c'est pas ça le débat, là, cette fois-ci.
Oui.
Le débat, c'est que... Parce que je veux bien qu'on dise que le ministre n'était pas bon en disant ça, ou il a fait de la récup, après tout.
Mais c'est un peu
il fait de la PSG. Ouais. Mais enfin, il y a un autre poste de libre, hein. C'est le responsable de la communication du PSG.
Ouais.
Ah oui, bah oui, qui a posté une image du PSG en avion, oui, ça,
d'accord. Je suis désolé.
C'est pas très malin.
Compte tenu du contexte.
Ou alors il vit sur une autre planète, parce que.
Il nous explique pas pourquoi, pour des conditions de sécurité, de rapidité,
après,
etc.
Paris, non,
il
Paris, le fait. Lyon, quoi, ça fait 2, hein.
Mais enfin, franchement, d'ailleurs, s'il la retire, c'est qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait un problème.
Ben oui.
Bon, bah voilà.
Après, Qatar, il aurait fait comment pour y aller?
Non, mais après, on sait tous
que. Moi, ça ne me choque pas qu'ils y aillent en avion.
Chaud,
je
veux
dire, je suis tranquille.
Non, mais c'est très compliqué, en fait. Aujourd'hui, les conditions sont pas réunies pour qu'ils y aillent en train.
Plutôt que de m'emmerder sur ma ligne de TGV en bloquant le TGV, parce qu'on va avoir des contrôles de sécurité à n'en plus finir, parce qu'il y a 3 artistes du ballon rond qui vont être dedans, je préfère qu'ils y aillent en avion et qu'ils me pénalisent pas pour mon voyage à moi.
Enfin, vous avez raison, et c'était pas très malin, quand même, de.
C'est pas malin de mettre cette vidéo.
Au PSG, ils sont pas très malins non plus. C'est dans leur QI moyen, c'est déjà.
Non, mais pas du tout. Ouais. C'est bête de
dire
ça.
Il y a des grands professionnels de la com qui doivent s'en occuper, sûrement. Ouais.
On va terminer avec le niveau du jour très rapidement, Rémi.
Le niveau du jour, c'est le niveau d'anglais des élèves français. Dans le détail, 50,5% des collégiens n'ont pas obtenu le total de points requis par le cadre européen commun de référence pour les langues. Ce sont les élèves de 3e qui ont passé ce test.
C'est une surprise? Non. Bon, bah écoutez, voilà, vous êtes tous d'accord. Eh bien, écoutez, on va accueillir quelqu'un qui est fluent en English.
Ah, yes.
C'est Vincent Moscato.
Moscato.
Le super.
Hello.
Super Moscato Show.
Ça va bien?
Ça va, Vincent?
Ça va, Estelle?
Bah ouais, ça fait plaisir.
T'as passé un bon week-end?
Écoute, super.
Ouais, ça va?
Ouais, ça va.
C'est bien.
Ouais.
Coloscopie, 4 fois par an.
Bah écoute, il faut ce qu'il faut. Hein.
Regarde. On reviendra sur la médaille d'argent de la France au basket. Mmh. Ouais, on a perdu en finale.
Quelle déception.
Bah oui, ça, quand même.
Mal joué.
Contre l'Espagne.
C'est un
au basket, avec les Espagnols, ils étaient tout petits, maintenant ils sont grands et tout. C'est fou, ça, quand même. On n'y arrive pas. Pourtant, on le sentait dès le départ. C'était quand même assez moyennasse, hein, cette équipe de France. Mais sur un malentendu, deux faux témoins, on pouvait être un nouveau champion d'Europe.
Dès qu'on y a cru, je ne le sentais plus.
Et pourtant, il y avait Rudy Gobert.
Ça
reste
très bien.
Comme le rugby.
Tu vois. Va-t-on revoir le grand Messi? Il a marqué un but magnifique. Très beau. Quel beau but. Est-ce qu'on le verrait quand même, hein? Non, mais ça serait joli. Ça serait bien parce que c'est quand même un technicien.
On a besoin.
Moi, j'adore les techniciens. J'étais un technicien moi-même quand je jouais au rugby.
C'est vrai que c'est ça qu'on retient de ta carrière.
Tout à fait.
C'est le physique d'un technicien.
Oui, c'était tout à fait technicien, oui. Lyon a-t-il. Alors, y a-t-il tromperie sur la marchandise? Ouais, parce que ça ne tourne pas, tu vois. Je te pose la question, Estelle.
Disons que ça roule pas comme ça devrait rouler, quoi.
Non, dis-moi un peu, toi qui.
Y a pas trop pris, mais enfin, on attendait mieux.
Ouais. L'investisseur met du temps à dégainer un peu l'oseille.
En même temps, c'est le PSG en phase, donc qu'est-ce que tu veux faire?
Ouais, mais quand même. Voilà, bon, on va faire 3 heures, ne vous inquiétez pas, il y a plein de débats.
Oui.
Plein de débats, moi, c'est
l'équipe de France, non?
L'équipe de France?
Un peu, quand même. Il y a encore des blessés, là.
Ouais, il y a des blessés. Ouais, mais c'est rien. On en parlera assez pendant la Coupe du Monde. C'est bientôt. C'est là où il faudra être sur le pont. Voilà. Vous avez vu un peu l'arène?
Ce matin, j'ai vu.
Magnifique.
Les mecs. Oui.
Voilà.
Donc, écoutez, super. Bon. Le super Moscato Show, c'est dans un instant.
Et voilà. Et football,
sur RMC, on se retrouve demain à midi 15h dans Estelle Midi. Bonne journée à tous.
Bonne soirée.
RMC, 15h-18h, le super Moscato Show.